Cette femme qui souffrait depuis des années, qu'aucun médecin n'arrivait à guérir. Cette femme qu'on appelle la femme hémorroïs, atteinte de flux de sang. Le texte dit, l'hémorragie s'arrête. Cette femme a été une des femmes les plus inspirantes des premières communautés chrétiennes. Elle a connu un succès considérable au début de l'Église. Elle a été probablement une des femmes de l'Évangile la plus représentée et la plus contemplée, voire même priée. Plus pour nous que la Samaritaine ou d'autres femmes qui nous sont peut-être plus familières. On a retrouvé à Rome, dans la catacombe de Marcellin et Pierre, une fresque qui la représente. On la voit en train de s'approcher de Jésus. Une fresque très ancienne, elle date du 4e siècle, remarquablement conservée, extraordinaire, moins par l'ancienneté que par la finesse des traits, la science des drapés et des ombres, la maîtrise de la perspective. Il faut vraiment aller la chercher sur Internet et regarder-la, d'autant qu'elle constitue une des plus anciennes représentations du Christ. Et pas un Christ tel qu'on le représente habituellement, barbu, chevelu, pas un Christ un peu hippie. Non, un jeune héros, imberbe, souriant, plein de tendresse. Et cette peinture, sur le mur d'un cimetière chrétien souterrain, c'est ça une catacombe, sur le mur d'un cimetière, donne le sens de cette guérison. C'est une promesse de résurrection. C'est le don de la vie éternelle. Et les trois évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, relate le récit exactement de la même façon. Nous l'avons entendu comme, disons, enchâssé dans la résurrection d'une jeune fille. On vient chercher Jésus au début du récit pour cela, et le récit se termine ainsi. Et les destins sont explicitement liés, puisque le début de la maladie de cette femme coïncide avec la naissance de l'enfant, il y a 12 ans. Cet enfant étant la fille d'un chef de synagogue, ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire les écrivains spirituels des premiers siècles, en faisait une lecture symbolique, qu'on appelle allégorique, et il disait, cette jeune fille représente le peuple juif, puisque son père est le chef de la synagogue, c'est la synagogue. Tandis que cette femme, qui souffre de perte de sang, autrement dit d'énergie, de vie, cette femme qui dépérit, c'est le symbole de l'humanité souffrante. Elle représente tous les païens qui viennent à Jésus, comme cette femme qui vient le toucher par derrière, ils viennent par derrière, c'est-à-dire après lui, après Jésus. Et c'était l'interprétation la plus fréquente en Occident, qu'on trouve chez les plus grands auteurs, chez saint Hilaire de Poitiers, chez saint Ambroise de Milan, saint Jérôme, et saint Augustin en donne un parfait résumé. Je le cite, la fille du chef de la synagogue désignait le peuple juif pour qui était venu le Christ, puisqu'il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quant à la femme qui souffrait d'hémorragie, elle figure l'Église des nations, à qui le Christ n'avait pas été envoyé dans sa présence physique, puisque c'est en Judée, c'est en Israël, qu'il avait eu une existence corporelle et visible, autrement dit terrestre. Et les mêmes auteurs poursuivaient cette interprétation symbolique, notamment à propos de ces médecins auxquels la femme avait eu recours. Ils disaient, ces médecins, en fait, ce sont les philosophes païens qui prétendent que la philosophie, c'est la médecine de l'âme. Non, tous les troubles que nous avons, qui ne sont pas seulement des troubles physiques, quand on cherche à avoir le sens de l'existence dans tous les problèmes que nous pouvons avoir, et on lit ça chez Origène, il y avait chez les païens beaucoup de médecins qui promettaient la guérison. Et si on considère les philosophes, ils font profession de vérité. Ils sont censés nous apporter des réponses au sens de la vie, au sens de tout ce que nous vivons dans la vie, au sens de la souffrance. Ce sont des médecins qui essayent de guérir les hommes, mais cette femme ne put être guérie par aucun d'entre eux. Personne n'y arrivait. Et saint Jérôme, de surenchérir, nombreux furent ceux qui promettaient le chemin vers le bonheur. Socrate l'a promis, Platon l'a promis, Aristote l'a promis. Et cette femme hémorroïde qui perdait son sang, qui perdait sa vie, elle a cherché de nombreux médecins, elle n'a pu être guérie par aucun d'entre eux. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le Christ. Et arrêtons-nous sur deux détails du récit. Saint Marc dit que la femme, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vient par derrière toucher son vêtement. Les deux autres évangélistes, Saint Matthieu et Saint Luc, sont plus précis. Ils disent qu'elle vient toucher la frange de son vêtement. Et il faut comprendre dans le contexte de l'époque, qu'est-ce qu'elle touche, la frange de son vêtement ? C'est ce qu'on appelle les tzitzit. Les tzitzit, vous les connaissez tous, on en a tous vu chez les juifs pieux, ce sont ces longs fils qui pendent aux quatre coins des vêtements. C'est un commandement de la loi, c'est un commandement de la Torah, c'est ce que dit le livre des Nombres. Le Seigneur parle à Moïse, il dit « Parle aux fils d'Israël, dis-leur qu'ils se fassent une frange au pan de leurs vêtements, d'âge en âge, de génération en génération. Et vous aurez donc une frange, et chaque fois que vous la regarderez, vous vous rappellerez tous les commandements du Seigneur et vous les mettrez en pratique. » Ces tzitzit, ces longs fils, c'est un commandement, c'est une obligation. Vous savez que la kippa, c'est une tradition, ce n'est pas un commandement de la loi. En revanche, ces fils, ces tzitzit, ça fait partie de la loi. Et le vêtement qui porte ces tzitzit a un nom, ça s'appelle le talit, d'où le jeu de mots à la fin du texte, talitakum, mais qui est réservé quand même aux initiés. Que cette femme touche la loi, c'est-à-dire les franges du manteau, ou qu'elle touche directement, comme dit saint Marc, le manteau de Jésus, dans les deux cas, que cherche-t-elle ? Elle cherche ce qu'elle n'a pu obtenir de personne. Elle cherche ce que aucune philosophie, aucune vérité de ce monde n'a pu lui offrir. Elle cherche ce que nous cherchons tous. Alors plus difficile est la question de Jésus. Qui m'a touché ? Et vous voyez la réaction des disciples avec cette foule. Pourquoi cette question ? Mais c'est surtout, l'étonnement vient, comme disait Tertullien, des grands auteurs des premiers siècles, qui dit, mais pourquoi est-ce qu'il parle comme s'il l'ignorait ? Il est Dieu, il le sait ! Alors Tertullien explique que c'est pour provoquer la confession de cette femme, pour qu'elle puisse justement venir directement. Pour saint Jérôme, non. Pour saint Jérôme, cette question est destinée à ceux qui sont présents. C'était une façon de faire connaître le miracle, afin que Dieu fût glorifié par ceux qui en étaient les témoins. Enfin, saint Augustin estime que cette ignorance du Christ, en fait, c'est une figure. Ce n'est pas l'ignorance du Christ, c'est l'ignorance par la femme de qui est réellement le Christ, de qui est réellement le Sauveur. Quand la femme n'était pas encore croyante et ne connaissait pas Jésus, c'est comme si elle n'était pas connue de lui. Puisque selon saint Ambroise, être connu par le Christ, c'est être guéri, c'est être sauvé. Être connu par le Christ, c'est être sauvé. Voilà pourquoi nous prions le Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de nous, Seigneur. Connais-moi, connais-moi, je te connaîtrai comme je suis connu. Le rôle de la foi, mes amis, c'est de nous faire passer de la proximité à la connaissance. On peut être proche et ignorant. On peut très bien se croiser, se côtoyer, se voir tous les jours, et en fait, en réalité, au plus profond, ne pas se connaître. Pour se connaître, il faut s'écouter. Il faut apprendre à se connaître. C'est ce que nous faisons en venant à la messe. Nous approchons du Christ, bien sûr, pour être guéris, pour être sauvés. Mais nous voulons surtout demeurer auprès de lui pour le connaître davantage, pour le connaître du fond du cœur, pour pouvoir un jour contempler sa gloire. Voudriez-vous ces jours-ci reprendre dans votre prière le prologue de la première lettre de Saint Jean? Nous connaissons le prologue de l'évangile de Saint Jean que nous récitions par le passé à la fin de chaque messe, mais il y a l'autre prologue de Saint Jean, le prologue de la première lettre de Saint Jean, qui dit ceci: ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite.